Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette rubrique portrait de l'émission Un jour dans l'histoire. Pour une fois, le personnage auquel nous nous intéressons n'est pas français, mais russe et qui plus est tsar. Il s'agit du tsar Alexandre Ier, connu en France mais aussi en Russie pour avoir été l'adversaire et le vainqueur de Napoléon Ier. Mais au-delà de cet aspect, le personnage a toujours été considéré comme complexe, ambigu, difficile à cerner. Il faut dire que de nombreuses zones d'ombre entourent le personnage, à commencer par les conditions de son accession au trône à la suite de l'assassinat de son père, Paul Ier, mais aussi sa politique intérieure, tantôt réformatrice, tantôt conservatrice, et bien sûr sa politique étrangère. L'alliance avec Napoléon à Tilsit, qu'il a conclue que pour mieux l'anéantir par la suite, et sans parler de sa mort tragique et subite au fin fond de la Russie, qui ne serait qu'une disparition volontaire pour se soustraire au pouvoir. Nous voilà donc face au mystère Alexandre, mystère que nous allons tenter d'élucider dans cette émission. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Pierre Rey, auteure d'une biographie d'Alexandre Ier parue aux éditions Flammarion. Bonjour Marie-Pierre Rey.
Bonjour.
Permettez-moi de vous présenter à nos auditeurs. Vous êtes professeure d'histoire russe et soviétique à l'université Paris 1 Sorbonne et auteure, entre autres, du dilemme russe, virgule, la Russie et l'Europe occidentale d'Ivan le Terrible à Boris Eltsine. Est-ce bien ça?
Absolument.
Bon, alors nous allons revenir à Alexandre. Et tout d'abord, pourquoi vous êtes-vous intéressée à ce personnage?
Alors justement, vous venez de mentionner mon ouvrage précédent, Le dilemme russe, qui était donc une histoire dans la longue durée des relations entre la Russie et l'Europe. Et c'est en travaillant sur cette thématique que je me suis rendu compte de l'importance absolument cruciale du règne d'Alexandre Ier. Son règne, qui date donc de 1801 à 1825, marque un tournant dans le regard que portent les Russes sur l'Europe, et non seulement dans le regard, mais également dans leur pratique à l'égard de l'Europe.
Alors nous allons évoquer le destin d'Alexandre en suivant la chronologie. Il naît en 1777. Sa grand-mère Catherine II est au pouvoir. Dans quel contexte se déroule l'enfance d'Alexandre? Peut-être déjà rappelons qui sont ses parents.
Oui, alors en fait, donc Alexandre est le fils de Paul qui va régner à la mort de Catherine, donc Paul Ier, et de Maria Fiodorovna. Donc c'est l'aîné de ce couple qui est très vite mis à l'écart, ce couple, par Catherine II, qui n'a que mépris en fait pour son propre fils et sa belle-fille. Et dès la naissance de l'enfant, elle va l'accaparer en quelque sorte, se l'approprier même, pourrait-on dire, pour faire de cet enfant son héritier. Donc elle va tout faire pour le modeler, en fait, dans l'esprit qu'elle se fait de ce que doit être un empereur. Alors, c'est aussi ça qui est fascinant. C'est l'enfance, en fait, de cet enfant et ce futur empereur qui a été très vite pris en étau entre sa grand-mère, qui lui voit très tôt un destin impérial, et puis ses parents, dont elle les coupe en rêvant de lui donner une éducation modèle.
Mais alors, quel est le mode de vie de la grand-mère et quel est le mode de vie des parents? Ce n'est pas tout à fait le même, à vous
alors,
dire.
Alors, tout est différent, non seulement, je dirais, dans les comportements, mais également dans les lieux, puisque Catherine II réside au château, aujourd'hui on connaît sous le nom de l'Ermitage, qui est donc le palais d'hiver à Saint-Pétersbourg. Elle est entourée d'une cour brillante, où l'on a des écrivains, des musiciens, des artistes de grand talent. Tout le monde s'y habille à la française, puisqu'à l'époque, la mode française est extrêmement présente. Et puis, on s'y pique évidemment d'esprit, de belles lettres. Et en même temps, il est vrai, derrière cette façade très polissée, amoureuse des belles lettres, on a toute cette corruption de la cour. Car on le sait, Catherine II n'a pas été toujours, c'est le moins qu'on puisse dire, d'un comportement exemplaire. Et puis, à côté de cela, on a donc, à côté de cela, à quelques distances de cela, à Pavlovsk ou surtout à Gatchina, qui est le château préféré de Paul, un mode de vie tout à fait différent. Paul élève ses enfants d'une manière militaire, il est fasciné par le modèle prussien, donc chez lui, c'est l'ordre, la discipline, les uniformes à la prussienne, bref, deux univers complètement antinomiques, et au milieu desquels le petit garçon va être obligé évidemment de louvoyer, de s'adapter. Et pour certains historiens, et c'est aussi cela qui m'a attiré évidemment dans cette biographie. Pour certains historiens, c'est là l'origine de la complexité de son caractère, voire justement de ce caractère un peu fuyant qui sera le sien. Certains le considèrent comme dissimulateur, hypocrite, méfiant. D'autres sont plus indulgents. Pour ma part, et c'est le privilège d'avoir travaillé 6 ans sur ce personnage au travers des archives, je crois qu'il faut, et c'est ce que j'ai voulu faire, démonter un certain nombre de mythes. On a beaucoup justement écrit de mythes sur Alexandre, en particulier ce goût pour la dissimulation, qui me paraît en fait avoir été accentué à tort par nombre d'historiens. Alexandre est très sincère dès lors qu'il est en confiance. Et on a de merveilleuses lettres à sa mère, à sa sœur, à son précepteur la harpe. Bref, autant de gens qui comptent pour lui et à l'égard desquels il sera toujours extrêmement sincère et authentique. Et c'est pour l'historien un matériau très précieux.
Vous venez d'évoquer la harpe, le personnage de la harpe, parce qu'on a parlé de l'enfance, mais venons-en à son éducation et à son enseignement plus précisément.
Alors, Catherine II, donc, quand elle décide de modeler le petit garçon à son image, du moins l'image parfaite qu'elle se fait du futur monarque, va s'entourer d'un certain nombre de précepteurs, de professeurs de grand talent, mais elle va... À un moment donné, à partir de septembre 1784, alors que Alexandre a un peu moins de 7 ans, le mettre sous la tutelle de la harpe qui va devenir précepteur principal d'Alexandre et de son petit frère Constantin, qui a un peu plus d'un an d'écart enfin, avec son frère. Et la harpe, alors c'est tout le paradoxe de l'éducation qu'Alexandre donne à l'enfant, la harpe est un républicain, c'est un Suisse républicain qui a des idées extrêmement arrêtées sur ce qu'il convient de donner comme éducation. Et il va s'y employer avec beaucoup de talent. Il sera précepteur d'Alexandre jusqu'en mai 1795, donc plus de 10 ans durant lesquels il côtoie l'enfant tous les jours et il lui délivre un enseignement qui sera dominé parmi les disciplines par l'histoire, en particulier l'histoire romaine, et un petit peu moins par la littérature. Et au travers de cet enseignement d'histoire qui occupe la place prépondérante, eh bien, la harpe va inculquer à l'enfant un certain nombre de valeurs et de préceptes politiques, à l'insu même parfois de Catherine elle-même.
Et quels sont ces préceptes et ces valeurs? Parce qu'Alexandre va les garder finalement tout au long de sa vie.
Alors, l'harpe, et c'est ça sa force, enseigne l'histoire romaine à partir d'exemples concrets. On a en fait les notes de cours qu'il prenait, et on a même des notes très précises qui sont aujourd'hui conservées dans les archives de la Fédération de Russie, et auxquelles j'ai eu accès, et qui là aussi sont un matériau merveilleux pour l'historien. Et on voit qu'il donne des leçons qui sont à la fois des leçons d'histoire et presque... de morale politique. Et au travers donc des bons règnes et des mauvais règnes, il distribue en quelque sorte des points et il va donc ériger en principe fondamental la nécessité pour le futur monarque de ne pas être un tyran, de ne pas être un despote, de se conformer aux lois et d'en donner à son peuple, de travailler dans la tempérance, de ne jamais être oisif. Donc il y a tout un ensemble de préceptes et de valeurs et surtout bien sûr, l'objectif de la harpe, c'est de faire en sorte que Alexandre, parvenu sur le trône, soit en mesure de donner une constitution à ses sujets.
Alors, nous venons d'évoquer la harpe, figure très importante pour le jeune Alexandre, mais vous mettez aussi l'accent sur autre chose dans votre livre, c'est sur les liens qu'entretenait Alexandre avec sa mère.
Oui, alors ça c'est un point fascinant qui a jusqu'à présent été complètement négligé par l'historiographie. On présentait souvent Maria Fiodorovna, donc la mère d'Alexandre, comme extrêmement conservatrice qu'elle était, comme ayant écrasé son fils, ce qui n'était pas du tout le cas. En fait, l'harpe a joué un rôle important, car contre finalement la volonté de Catherine, il a fait en sorte que les enfants maintiennent un lien affectif avec leurs parents. Et ce lien, ténu mais réel, n'a fait que croître avec le temps. Et Alexandre avait une confiance extrême en sa mère, qui elle-même était très protectrice autant qu'elle le pouvait à son égard. Et c'est un lien à la fois intime, très fort, qui va aller au-delà de la sphère, personnelle, pour aller vers la sphère publique. Et à plusieurs reprises, j'ai retrouvé ces documents dans les archives russes, Alexandre soumet pour avis à sa mère des commentaires sur des textes qu'il envisage de prendre, des textes politiques importants. Alors, elle est souvent en désaccord avec lui, mais cette confiance demeurera jusqu'à la disparition du tsar.
les personnages se mettent en place autour d'Alexandre, j'ai envie de dire. On vient de voir la harpe, sa mère. Alors, on va dire aussi quelques mots de son épouse, puisqu'il se marie en 1793.
Alors, effectivement, Catherine fait le choix de marier très tôt son Alexandre. Il a donc 16 ans lorsqu'il épouse Louise de Bade, donc elle a un peu moins de 2 ans de moins que lui. Et Louise de Bade donc, va se convertir à l'orthodoxie, hein, ce qui était obligatoire pour espérer accéder au trône, et donc devenir l'impératrice Élisabeth, c'est sous ce nom qu'elle est connue. Alors, l'impératrice Élisabeth était absolument somptueuse, on le voit dans l'ouvrage, nous avons mis un cahier central où on voit sa beauté hein, qui irradie. Elle est, de l'avis des contemporains, une des plus belles femmes au monde. Donc, Élisabeth Vigée-Lebrun a également fait d'elle de très très beaux portraits. Donc, elle est extrêmement jolie, très intelligente, très bien éduquée, et a priori, ce choix ne pouvait qu'être un choix heureux. En réalité, les relations seront très compliquées entre les époux et sans doute y entrait-il dans cette relation un peu ratée l'immaturité d'Alexandre qui finalement était beaucoup plus puérile au moment du mariage que ne l'était Louise de Bade. Et assez vite, elle va le trouver un peu pas très sérieux, un peu jeune, pourrait-on dire.
Oui, elles se détournent l'un de l'autre et surtout, cette union, ils n'auront pas d'enfants.
Alors oui, c'est le drame en fait d'Élisabeth et d'Alexandre évidemment aussi, mais elle le vivra de façon très, très tragique. Ils n'auront pas d'enfants. Et lui, par contre, aura des enfants de sa maîtresse, Marie Narychkine, qui était extrêmement réputée pour sa beauté, mais peu réputée pour son intelligence. Elle était très légère. Et sans doute y a-t-il eu là une différence extrême entre Élisabeth, qui était beaucoup plus intellectuelle, beaucoup plus cérébrale, que ne l'était Marie Narychkine. Et il a construit auprès de Marie Narychkine ce foyer qu'il n'a jamais eu avec Élisabeth.
Alors, pour compléter ce tableau des premières années d'Alexandre, venons-en à la mort de Catherine II en 1796 et à l'arrivée au trône de Paul Ier et ses années d'Alexandre sous Paul Ier.
Alors, lorsque Paul accède au trône, donc à la mort de sa mère en novembre 1996, Alexandre, qui avait pourtant été pressenti par sa grand-mère pour régner à la place de son père, agit en légitimiste, pourrons dire. Il aime son père et il est très content que son père accède au trône. Les débuts du règne sont plutôt positifs, puisque Paul prend un certain nombre de mesures d'amnistie des prisonniers politiques, il relâche les prisonniers polonais qui avaient été emprisonnés par Catherine à la suite de la guerre polonaise. Bref, il a des comportements généreux, il oblige les nobles à concéder un jour sans travail aux serfs, qui ne devront plus travailler le dimanche et les jours de fêtes religieuses. Donc tout cela dessine un règne qui paraît heureux. Et puis, progressivement, la machine va se détraquer. L'empereur devient de plus en plus paranoïaque, capricieux. Il expédie en Sibérie, sous des prétextes futiles, tel ou tel noble. Et finalement, la terreur va progressivement s'installer. Combiné à cela, des choix de politique étrangère jugés de plus en plus aventureux, tout cela aboutit à un complot qui va être mené par des aristocrates de très haut rang, anglophiles pour la plupart, et de plus en plus hostiles à cette dérive. Alors la grande question, c'est l'attitude.
La place et l'attitude d'Alexandre.
Voilà. Quelle fut l'attitude d'Alexandre? Il fut sans doute le complice un peu passif de ce complot. Il en a été informé, mais il espérait, alors peut-être était-ce illusoire, c'est ça la grande question, que son père aurait la vie sauve et que son père se contenterait d'une simple déposition. Mais ça ne cadre pas, évidemment, avec le sens même de cette autocratie, puisque le pouvoir autocrate vient de Dieu et qu'on ne peut pas imaginer une déposition d'un tsar tandis qu'un autre monterait sur le trône. Et c'est là, évidemment, où le bât blesse et où peut-être inconsciemment, Alexandre a-t-il accepté le parricide et le tsaricide. Mais ce seront deux péchés à l'égard de la loi divine et Alexandre, en fait, va porter ce remords tout au long de sa vie.
Marie-Pierre Rey, je vous propose de marquer une pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission.
La bibliophilie est à l'honneur sur Canal Académie. En compagnie de notre bibliologue Bertrand Gallimard-Flavigny, vous découvrirez des ouvrages et manuscrits rares présentés avec esprit dans l'émission Au fil des pages. Le bibliologue, une rubrique de Canal Académie, à écouter et télécharger sur canalacademie.com.
Nous Nous sommes en compagnie de Marie-Pierre Rey, auteure d'une biographie du tsar Alexandre Ier. Nous venons d'évoquer les premières années du jeune Alexandre et les circonstances de son arrivée au pouvoir. Voyons maintenant la façon dont il gouverna. Alors Marie-Pierre Rey, sur le plan intérieur, l'arrivée d'Alexandre au pouvoir marque-t-elle une rupture ?
Alors oui, dans la mesure où très tôt, il se lance dans des réformes, toujours sous l'influence des valeurs que lui a inculquées la Harpe, avec l'idée que le pays, après la terreur qu'il a subie sous le règne de Paul, doit aller vers une sérénité, retrouver une forme de sérénité et surtout s'acheminer progressivement vers un régime de réforme, voire une constitution. Cette constitution, il en rêve, il la décrit et il va pousser un certain nombre de ses proches à y réfléchir de très près. De même, il sera hanté par la question du servage, qui lui paraît un scandale autant moral, religieux qu'une aberration économique. Et là aussi, il tentera d'essayer de réfléchir à la façon dont on pourrait procéder pour se défaire de ce servage. Mais en fait, la question essentielle à laquelle il va être confronté, et c'est sans doute à mon avis la clé qui expliquera finalement son échec à promouvoir ces grandes réformes, la mise en place d'une constitution et la réforme du servage, la grande question et le grand problème auquel il se heurte, ce sera l'absence de relais. Sur quoi s'appuyer dans cette Russie de 40 millions d'habitants où on trouve moins de 5% de gens alphabétisés? Comment pouvoir porter cet esprit de réforme? Et c'est ça, évidemment, qu'il ne pourra pas régler.
Et la résistance de la noblesse, bien sûr.
Oui. Parce que d'un côté, il ne peut pas s'appuyer sur qui que ce soit, ou très peu, et d'autre côté, la noblesse russe est extrêmement cramponnée à ses privilèges, soucieuse de préserver à la fois le servage, qui est son mode évidemment de survie, de vie, et puis soucieuse de conserver également le régime autocratique, puisque c'est ce régime en fait qui est le fondement même de l'Empire russe. Alors, ce qui est intéressant quand même à noter, c'est que s'il ne portera pas la réforme au cœur de son empire, au cœur de sa Russie, parce qu'il la juge finalement immature et qu'il juge les obstacles trop grands. En revanche, et ça c'est un point qui me paraît très intéressant, en revanche, il va initier, impulser des réformes à la périphérie de son empire, dans des régions, une fois que celle-ci entre dans l'escarcelle russe, ou dans des régions qu'il considère comme plus mûres, parce qu'elles ont des élites plus importantes, des élites plus libérales, et qu'elles lui paraissent dessiner une configuration favorable. Alors, par exemple, lorsque la Russie s'empare de la Finlande en 1808-1809, eh bien, la Finlande intégrée dans l'Empire russe va bénéficier de droits. Des droits donc seront concédés à la population, alors que ces droits eh bien, n'existent pas dans la Russie centrale. En 1815, une partie de la Pologne revient et constitue en État indépendant, mais sous la houlette russe. Eh bien, dans cet État indépendant sous influence russe, il accorde une constitution. Et de même, le servage sera aboli en 1816-1817 dans les provinces baltes. Donc, pour lui, la réforme qu'il ne peut pas réaliser au cœur de l'Empire, il va la porter à la périphérie avec l'idée que progressivement, ces exemples pourront, finalement, par une sorte de capillarité, et lorsque la Russie sera plus mûre, eh bien, pourront être exportés, pourrait-on dire, en Russie centrale.
Mais Alexandre n'a-t-il pas été aussi freiné, je dirais, par sa politique extérieure, et on va en parler, parce qu'elle lui a pris énormément de temps.
Alors, bien sûr, ça c'est l'autre problème.
Voilà, on va aborder maintenant l'Alexandre diplomate, entre guillemets.
Voilà. Alors oui, et c'est évidemment la grande question, c'est que cet homme qui initialement voulait se consacrer à la paix, à la réforme, comme il l'écrit dans ses lettres à la Harpe, eh bien, va progressivement être amené à jouer un rôle de plus en plus grand sur la scène européenne. Et c'est en ce sens que son règne est également un tournant pour l'histoire russe, l'histoire française et l'histoire européenne. Parce que à partir du règne d'Alexandre, et on en dira sans doute quelques mots plus tard, eh bien, rien ne sera plus comme avant en ce qui concerne le destin de l'Europe. Alors, au départ, il n'a pas de goût particulier pour cette politique étrangère. Il est pacifiste, viscéralement pacifiste, mais les circonstances vont l'amener à changer d'attitude.
Tout d'abord, la politique d'Alexandre comprend une alliance avec l'Angleterre au départ. Et peu à peu, il se trouve amené aux côtés de l'Angleterre dans les guerres napoléoniennes. On va peut-être résumer très vite sa politique.
Alors, effectivement, au départ, il est plutôt, il sera anglophile. Et à cette alliance avec l'Angleterre se combine une alliance avec la Prusse.
Hein, car, la troisième
bien, coalition. Voilà, bien entendu, il a du sang allemand. Il s'intéresse beaucoup au destin des principautés allemandes et également du royaume de Prusse. Donc, alors même qu'il est au départ soucieux de pacifisme et soucieux d'attentisme, je dirais, malgré tout, du fait des liens très anciens existant avec l'Angleterre et du fait de son intérêt pour les questions allemandes, il est évidemment déjà un peu contraint de s'intéresser à ce qui se passe en Europe. Alors, on pourrait s'étonner, bien entendu, de ce qu'il va devenir l'adversaire résolu de Napoléon, en ce sens que, a priori, ses idées libérales aurait dû l'amener vers Napoléon. Il n'en sera rien, car à ses yeux, dès 1803, il y a une très belle lettre qu'il écrit à l'Arbre, qui est très claire sur ce point. Pour lui, Napoléon a trahi la Révolution. Napoléon n'a fait finalement qu'utiliser des circonstances pour se transformer en tyran. Alors cette lettre est absolument extraordinaire, parce que c'est un tsar autocrate, n'est-ce pas, qui juge aussi sévèrement Napoléon Bonaparte. Donc il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans sa vision. Mais il est vrai qu'il considère Napoléon comme un usurpateur, comme représentant d'un pouvoir illégitime, et que l'expansionnisme français lui paraît de plus en plus dangereux. Et c'est à partir du moment 1804, l'assassinat du duc d'Enghien est pour lui un tournant, car cet assassinat, l'enlèvement du duc d'Enghien se produit en territoire de Bade, dont sa femme est originaire, dans la violation la plus complète du droit international. Donc pour lui c'est un déclic qui lui montre que Napoléon est insatiable, que cette France napoléonienne est dangereuse. Et puis il faut ajouter aussi que Napoléon s'intéresse de plus en plus clairement aux questions ottomanes, aux questions balkaniques, et que ça, évidemment, pour un tsar de Russie qui, dans la lignée de Pierre le Grand, de Catherine, rêve de reprendre un jour Constantinople, eh bien l'intérêt français pour les questions balkaniques et ottomanes est dangereux. Donc c'est cette configuration qui l'amène vers les questions internationales et vers la participation à la guerre. Alors, l'entrée de la Russie dans la guerre sera désastreuse. Elle est ponctuée de catastrophes. Austerlitz est pour lui un souvenir complètement traumatique, puisqu'il avait décidé de prendre la tête des troupes russes, et c'est un fiasco monumental. Et puis il y en aura d'autres. Et c'est finalement Friedland qui sera une véritable catastrophe qui le conduit à ce revirement que sera l'alliance de Tilsit et le rapprochement avec Napoléon. Mais pour lui, ce sera toujours un rapprochement de circonstances.
On a beaucoup parlé de la fascination et de l'entrevue des deux empereurs à Tilsit. Vous revenez sur cette image dans votre ouvrage.
Oui, parce qu'on a des sources russes qui sont tout à fait intéressantes là-dessus. C'est aussi une partie de l'historiographie française qui a mis un petit peu en avant cette fascination qu'Alexandre, beaucoup plus jeune qu'un Napoléon, aurait éprouvée pour l'empereur des Français. Alexandre est non pas fasciné, mais impressionné par le génie militaire de Napoléon. Ça, c'est quelque chose qui est indubitable. Et ce génie militaire lui fera peur. Et il l'a, je dirais, vécu viscéralement. Austerlitz, il s'écroule en pleurant. Pour lui, c'est quelque chose, évidemment, qu'il a ressenti viscéralement. Mais à côté de cela, il n'y aura jamais plus, à partir de 1803, c'est très clair, de fascination, qu'elle soit intellectuelle ou de quelque nature qu'elle soit, d'ailleurs, vis-à-vis de Napoléon. On a des lettres très claires d'Alexandre. Avant son départ pour Tilsit, il écrit à sa sœur: Napoléon prétend que je suis un sot, rira bien qui rira le dernier, et moi je mets tout mon espoir en Dieu. Cette lettre est tout à fait symptomatique de son état d'esprit. Et pendant tout l'entretien, qui va quand même durer 2 semaines, on dit souvent l'entretien de Tilsit, mais c'est une relation qui va durer 15 jours, eh bien, il va observer Napoléon, mais toujours avec cette distance. Alors il n'est pas en position de supériorité quand il arrive évidemment à Tilsit. Il lui faut négocier au mieux, compte tenu du fait qu'il a perdu la guerre. Il lui faut au mieux tirer son épingle du jeu. Mais finalement, ce jeune homme, eh bien, va s'avérer beaucoup plus lucide, beaucoup plus mûr qu'on ne pouvait le laisser croire, et que ne le pensait Napoléon surtout.
Et aussi son entourage russe, parce que finalement, l'alliance française lui est beaucoup reprochée par sa mère et la noblesse russe. Et là, on va voir un Alexandre assez déterminé.
Oui, alors ça aussi, c'est un passage de sa vie qui est extrêmement intéressant et qui montre à quel point, justement, il était loin d'être velléitaire, un peu hésitant, comme on a souvent tendu, on a eu tendance à le dire. Il est très seul dans cette alliance française, car précisément, comme il a mené sa guerre d'Austerlitz à Friedland avec des propos très durs contre Napoléon, il ne faut pas oublier que Napoléon, dès 1806, par exemple, est excommunié par l'Église orthodoxe et surnommé l'Antéchrist, l'esprit du mal. Donc, le revirement d'alliance va être extrêmement difficile, je dirais, à vendre à la cour. Et par ailleurs, beaucoup considèrent à la cour que finalement, la Russie s'est mal sortie de Tilsit. Ce qui n'est pas objectivement vrai, compte tenu des données. On peut considérer au contraire qu'Alexandre s'en est bien sorti. Aucune parcelle du territoire n'a été compromise. Mais Il est vrai qu'il sera malgré lui engagé dans une alliance contre l'Angleterre avec cette obligation de participer au blocus continental, ce qui va affaiblir l'économie russe, et c'est ça que beaucoup lui reprocheront.
Alors on va en venir à la dernière phase, je dirais, des relations avec la France, c'est-à-dire la période 1812-1815, qui est cruciale, puisque l'incendie de Moscou, la campagne de France, là le rôle d'Alexandre est, Alexandre devient le maître de l'Europe. À
son... Oui, alors évidemment, je dirais que son succès européen, lorsqu'il entre à Paris à la tête des troupes coalisées au printemps 1814, est à la mesure des traumatismes et des difficultés subies pendant la guerre. Il faut bien se rendre compte que c'est près de 600 000 hommes, 450 000 puis ensuite 150 000, qui vont déferler en juin 1812. La grande armée napoléonienne mettra près de 4 jours à traverser le Niémen. C'est vous dire à quel point il y a cet effet de masse qui déferle sur la Russie. Et Alexandre a eu beaucoup de difficultés à imposer à son opinion et à une partie de son armée le choix stratégique qui a été le sien, qui a été celui de cette reculade, de cette retraite délibérément voulue. Alors, c'était sans doute la meilleure solution, mais il est vrai que tant que les contemporains étaient confrontés à ce recul humiliant, cette occupation dévastatrice par la grande armée du territoire russe, beaucoup ont douté. Et Alexandre s'est trouvé extrêmement seul, attaqué par une partie de son armée, par ses diplomates, par sa mère, par sa sœur Catherine. Bref, il est extrêmement seul et c'est là l'origine de cette révolution spirituelle qui va se jouer en lui, qui sera, il le dit lui-même, l'incendie de Moscou a illuminé mon âme, son retour vers Dieu, et c'est en croyant très sincère, désireux de changer l'Europe, qu'il entre donc dans Paris au printemps 1814.
Nous allons marquer une nouvelle pause, nous sommes toujours avec Marie-Pierre Rey et nous évoquons le tsar Alexandre Ier. Vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, je reçois Marie-Pierre Rey, auteure d'une biographie d'Alexandre Ier. Pour cette dernière partie de l'émission, je voudrais qu'on se concentre sur des aspects moins connus de la personnalité d'Alexandre, relatifs à la fin de son règne et donc, comme vous l'évoquiez à la fin de la partie précédente, à son tournant mystique. Donc, dans votre ouvrage, vous insistez sur la place capitale qu'occupe l'incendie de Moscou dans l'évolution psychologique et mystique du tsar Alexandre. Expliquez-nous donc pourquoi et quelle est la nouvelle orientation du tsar.
Alors précisément, donc quand la grande armée déferle, comme je l'ai dit, il est très seul, il doute énormément de ses choix et il se sent, il le dit à plusieurs reprises, je ne suis qu'un homme ordinaire, je ne suis qu'un heureux accident. Et face finalement au génie militaire de Napoléon, il est convaincu que bien sûr le climat va l'aider, que le peuple russe le soutiendra, mais au bout du compte, il va progressivement se persuader que c'est la providence, l'aide divine qui a permis à la Russie de l'emporter. Et donc celui qui au départ a été élevé par la harpe, finalement de façon assez éloignée des idées religieuses, va progressivement aller vers Dieu et se découvrir une spiritualité assez éclectique, c'est un point très intéressant. Il n'est pas finalement séduit par l'Église orthodoxe, il sera toujours dans une spiritualité assez complexe. Il peut prier dans une église catholique, dans un temple protestant, il y a chez lui un goût des textes, il lit la Bible, il étudie de façon très assidue, il assiste à des sermons et de gens divers. Bref, il est à Paris, il rencontre des Quakers, à Londres également. Bref, il a une attitude extrêmement ouverte à l'égard des questions religieuses, comme si finalement la seule chose qui l'intéressait, c'était la quête de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'oublie pas bien sûr qu'il est aussi empereur. Et il va transformer cet idéal religieux en arme politique. Ce sera la Sainte Alliance qu'il promeut en en septembre 1815, voulant donc faire du continent européen un continent de paix et de fraternité uni par la charité chrétienne, ce qui était évidemment une utopie.
Le rêve européen,
voilà,
d'Alexandre.
Le rêve européen, presque messianique, d'aller donc vers un continent pacifié. Alors, et ce qui est amusant et intéressant, hein, c'est qu'à la fois on a des éléments complètement utopique religieusement, mais également des éléments d'une grande modernité politique. En 1816, par exemple, il écrit au ministre britannique en lui proposant un accord de désarmement européen. Il souhaite promouvoir la création d'une Ligue des Nations européennes. Donc, vous voyez, c'est ça qui est
très avant-gardiste.
Voilà, fascinant. C'est qu'il faudra attendre la Société des Nations pour voir ce projet se concrétiser. Donc, voilà, il y a des éléments d'utopie religieuse, mais également d'utopie politique qui, un siècle plus tard, s'avèrent tangible.
Vous mettez autre chose en lumière dans votre ouvrage, complètement nouveau. Enfin, c'est le rapprochement qu'a voulu opérer Alexandre entre les deux églises, c'est-à-dire catholique et orthodoxe.
Oui, alors justement, ça ce sont des documents que j'ai trouvés, que j'ai pistés dans les archives vaticanes, les archives jésuites, des archives à Nice également, dans la famille de ce fameux émissaire qu'il va envoyer auprès du pape pour précisément essayer de travailler à ce rapprochement des églises. On est dans la logique de son rêve œcuménique. On est dans la logique de cette idée que finalement, les églises, en particulier l'église orthodoxe, rigide, telle qu'il la voit en tout cas, n'est peut-être pas le cadre le plus favorable pour exprimer cette spiritualité dont il rêve. Et de fait, c'est un projet tout à fait intéressant et singulier que ce rapprochement des églises dont il a rêvé. Alors en même temps, il est très conscient des difficultés. On a des documents qui attestent son inquiétude, son angoisse, pourrait-on dire, face à ce projet. Mais il le lance et malheureusement, en novembre 1825, eh bien, il disparaît brutalement, ce qui met un terme à ce rêve.
Alors peut-être pouvons-nous également dire quelques mots de la fin de règne d'Alexandre. On le sent en effet très tourné vers la religion et à ce moment-là écœuré presque de la politique.
Alors il abandonne, et c'est évidemment ce qui est un peu décevant dans cette fin de règne, il abandonne beaucoup des principes qui étaient les siens initialement et se désintéressant du monde, eh bien il va laisser son ministre Arakcheyev prendre de plus en plus d'importance et mener une politique de plus en plus rigide qui passe par des mesures extrêmement dures. Alors qu'il avait rêvé d'abolir le servage, eh bien, ce sont les colonies militaires qui sont mises en place et qui sont vécues par les paysans comme infiniment plus dures que le servage ordinaire. Donc on est à la fin de sa vie dans une sorte de paradoxe étonnant. Même chose pour la Sainte Alliance. Il rêvait de la Sainte Alliance comme d'un outil de paix, de fraternité. La Sainte Alliance va devenir un outil de répression à l'égard des idées, des mouvements libéraux. Donc on est dans le paradoxe et finalement, Alexandre lui-même sera plein d'amertume vis-à-vis de son règne qu'il perçoit un peu comme une promesse qui n'aurait pas été tenue et cette déception dont il se sent également coupable, eh bien, le pousse encore plus à s'éloigner du monde et de la réalité. Et c'est une fin de règne effectivement très décevante par rapport aux espérances initiales.
Alors nous arrivons au terme de notre émission mais nous ne pouvons pas nous quitter Marie-Pierre sans évoquer la fin du tsar comme nous l'avons fait mais surtout le Mister Fyodor Kouzmitch, je ne suis pas sûre de la prononciation,
mais si.
Et auquel je faisais allusion en introduction. C'est une incroyable histoire. Vous allez, donc, soi-disant, le tsar aurait disparu. Racontez-nous.
Alors, oui, en quelques mots, parce qu'il ne faut pas évidemment tout déflorer. Et puis l'affaire est tellement fascinante qu'il est difficile de la résumer.
Et de se faire une opinion.
Voilà, et de se faire une opinion. Alexandre officiellement meurt en novembre 1825 lors d'un voyage qu'il effectue en Russie du Sud, à Taganrog, loin des regards de la cour, loin de tous les hauts dignitaires. Il meurt brutalement alors qu'il ne souffrait d'aucune maladie, donc c'est une anomalie.
Il a 48 ans.
48 ans. Et peu de temps après sa mort, eh bien, la rumeur va commencer à s'installer. Et bien après, on va voir en Sibérie apparaître un homme, un starets, c'est-à-dire un homme saint, pieux, une sorte d'ermite qui sillonne la Sibérie, qui n'a aucun papier d'identité sur lui, pas de passeport intérieur alors qu'il y en avait dans l'Empire russe, qui restera silencieux sur son nom, alors même que cela lui coûtera des années d'emprisonnement. Bref, cet homme est mystérieux, il ressemble énormément au tsar et à bien des égards. Il est capable de donner beaucoup de renseignements sur la vie du tsar. Et à partir de là, beaucoup seront persuadés qu'il est en fait le tsar et que Alexandre, comme il l'a d'ailleurs longtemps et souvent répété, eh bien, aurait décidé d'abdiquer de son vivant. Or, le problème, et on en revient finalement au parricide et au tsaricide de Paul, aucun tsar ne peut abdiquer de son vivant, de sa propre volonté, puisque le trône est venu de Dieu, et l'on ne peut donc finalement, pour se défaire du trône, que mettre en scène sa propre mort et partir finalement dans l'ombre. Alors, les arguments ne manquent pas, puisqu'on sait que à partir de 1819, Alexandre est de plus en plus las du pouvoir, il est de plus en plus attaché et attiré par l'idée d'abdication, il en parle. Alors, ce faisant, Alexandre et Fiodor Kouzmitch ne faisaient-ils qu'un ? Le mystère quand même reste entier.
Je renvoie nos auditeurs à votre passionnante biographie du tsar Alexandre chez Flammarion. Nous n'avons pas eu le temps de tout parler puisque Alexandre fut aussi un grand séducteur. Nous n'avons pas évoqué cette facette.
C'est vrai.
Merci beaucoup Marie-Pierre Rey. Au revoir à tous et à toutes. Je vous signale également qu'il est disponible dans la médiathèque de Canal Academy un portrait du tsar Alexandre II par Hélène Carrère-Dorcos. Au revoir.